Vous êtes bien sur Esprit Occitanie, la radio web à la carte. L'oiseau blanc, Philippe Trousselard, bonjour. L'oiseau blanc avec aujourd'hui
André Brissemontier.
Aujourd'hui, j'accueille un autre vrai passionné de l'aéronautique. Un de ces hommes dont le cœur, toujours jeune, continue de vibrer quand il voit un avion, ou quand il l'entend d'ailleurs, quand il découvre une anecdote, une histoire qu'il ne connaissait pas. Bonjour André Brissemontier.
Bonjour Philippe Trousselard.
Alors oui André, vous faites partie de ces hommes et de ces femmes que l'on croise dans une vie professionnelle et avec qui il est si facile de s'entendre, tant il est possible de ne pas trouver ce qui peut nous accorder. C'est-à-dire pour moi l'envie de bien faire et je dirais plus encore le respect de l'autre. Durant cette heure, je suis convaincu que celles et ceux qui nous écoutent vont encore mieux comprendre avec vous ce que le mot passion veut dire en aéronautique. Votre passion, vous allez nous la faire découvrir, en particulier en nous faisant partager cette belle histoire des phares aéronautiques qui ont par exemple guidé les pilotes de l'aéropostale, Saint-Exupéry, Mermoz, Guillaumet et d'autres, sur la route de l'Atlantique Sud, en partant de l'aérodrome de Montaudran vers le seuil de Naurouze, Narbonne, Perpignan, le col du Pertus, et ensuite un peu plus vers le sud. Nous allons certainement aussi parler de patrimoine, tant ces phares méritent d'être connus et finalement protégés comme un témoignage de balbutiement de l'aviation commerciale. Mais André, je me permets de vous appeler par votre prénom, avant de rentrer dans le vif de ce sujet qui est le nôtre aujourd'hui, parlez-nous déjà un peu de vous, ce qui nous permettra, je pense sans aucun doute, de commencer à dérouler ce fil de curiosité de vie qui est le vôtre.
Merci Philippe. Eh bien, je vais commencer peut-être par dire, me situer un petit peu chronologiquement. Je suis né juste à la fin de la guerre, en 1945.
Donc vous êtes jeune, hein ?
Donc, oui, voilà. Merci. Oui, et j'avais un père qui faisait un métier qui a presque disparu maintenant, c'est-à-dire meunier. On disait minotier à cette époque-là, c'est-à-dire qu'il gérait un moulin d'une certaine importance. Et puis, donc nous étions en Mayenne à cette époque-là. Ensuite, nous sommes partis en Picardie et en 1949, nous nous sommes installés à côté de la ville de Laon. Ma famille est d'origine champenoise, donc on revenait près de nos racines. Et donc c'est là, en fait, à côté de cette très belle ville de Laon, que j'ai eu le déclic qui n'est pas dû, en fait, à quelque chose de français, mais à quelque chose d'américain.
Donc ce déclic de jeunesse, en fait, d'enfance.
C'est un déclic de jeunesse, oui, tout à fait. Même d'enfance, j'avais 7 ans, en 1952, quand les Américains, on disait les Américains à cette époque-là, se sont installés, en fait, sur une ancienne base allemande, qui se trouvait donc juste à côté de Laon, et à, disons, 4 kilomètres du moulin de mon père. Et donc c'est une base de l'OTAN, lorsque l'OTAN s'est installée en Europe, qui s'est installée juste à côté. Et de ce jour-là, j'ai découvert en fait un autre monde, quelque chose qui n'avait plus rien à voir avec les habitudes assez terriennes, finalement, de la famille. Et pour moi, ça a été tout de suite un signe de besoin d'évasion.
Alors finalement, vous êtes parti de ce moulin qui tournait aux hélices, peut-être ?
Oui, et Philippe, on peut dire des hélices, parce qu'à cette époque-là, c'était des anciens avions de la guerre de 40, en l'occurrence, pour ceux qui savent, des bombardiers B-26, peints en noir. C'était des avions qui servaient surtout pour faire des bombardements nocturnes. Donc, il y a eu une installation de B26 et évidemment, c'était assez amusant parce qu'à cette époque-là, dans la ville de Laon, c'était plutôt la civilisation aussi de la deux chevaux et on est passé brutalement au Studebaker et au Ford Mustang. C'était assez amusant.
Et votre vie professionnelle, alors vous avez relié tout ce déclic d'enfance avec votre vie qui a suivi ?
Oui, tout à fait. Il y a une chose que je dois dire par rapport à ça, dès maintenant, c'est que s'il y a eu un fil conducteur absolument, quelque chose de vraiment continu dans ma vie, c'est l'aviation. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu depuis l'âge de 7 ans et qui me tient toujours et toujours avec la même passion, avec la même envie. Et je dis toujours aux gens, si vous avez des envies dans l'existence, remerciez-les parce que c'est celles qui vous permettent de traverser l'existence avec beaucoup plus de sérénité. Et c'est vrai qu'il y a eu à cette époque une autre anecdote assez amusante, c'est que je lisais le journal de Spirou au début des années 50 et est arrivé dans le journal de Spirou les aventures de Bugdani pendant la guerre de Corée. Et alors, ce qui est assez amusant, Philippe, c'est que les aventures de Bugdani, je les ai eues dans les mains pile poil au moment où les Américains se sont installés à côté de la maison.
Et donc, votre carrière, je crois savoir, vous avez fait une belle carrière dans l'aviation civile.
Oui, alors, j'ai passé le concours de l'ENAC, c'est-à-dire l'École nationale de l'aviation civile, en 1965, après un bac Mathelem. Et je suis donc rentré, j'ai passé le concours à Orly à cette époque-là.
Oui, puisque l'ENAC n'était pas à Toulouse à cette
époque-là. Absolument, nous étions encore dans des vieux bâtiments en tôle semi-circulaire qui dataient de l'époque des Américains à la fin de la guerre de 40. Et quand j'ai passé le concours à l'ENAC, je me souviens qu'une personne qui surveillait le concours me regardait passer le concours de ce qu'on appelait TNAE, c'est-à-dire technicien d'exploitation, celui qui concernait spécifiquement les tours de contrôle. Il dit « Mais pourquoi vous ne passez pas aussi le concours d'électronicien ?» Et je lui ai répondu « Mais parce que je veux voir les avions !» Et ça m'est toujours resté parce que dans les choix que j'ai faits ultérieurement, en fait, je me suis toujours arrangé pour être dans des endroits où on voyait les avions, où on était à proximité des avions. Donc j'ai commencé au Bourget en 66. Pourquoi le Bourget ? Eh bien, c'est quelque chose d'assez affectif. En fait, c'est parce que j'avais le choix. J'aurais pu aller à Orly, le Bourget, dans un centre régional de la navigation aérienne.
Dans lequel, je vous interromps, vous n'auriez pas vu les avions finalement.
Eh bien voilà, exactement Philippe. Et c'est bien le problème. Donc j'ai choisi le Bourget. Et donc en 1966, sachant malgré tout que derrière ça, nous allions avoir une grande aventure qui est l'ouverture de l'aéroport Charles de Gaulle. Et puis donc en 1974, ouverture de l'aéroport Charles de Gaulle, on met la clé dans la porte, on découvre des nouveaux styles de trajectoire qui sont ce qu'on appelle les départs standards et les arrivées standards, alors qu'avant on travaillait à la main, je dirais, avec des caps et des altitudes. Et puis, en 1985, je suis parti à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, qui furent les meilleures années d'une partie passe-temps aussi, qui est souvent liée d'ailleurs à l'activité des contrôleurs, c'est le pilotage d'avions légers. Et j'ai sillonné toute la Caraïbe pendant toutes les années où j'ai été là-bas. Et puis retour en métropole, parce que il y avait des enfants aussi, il y avait l'éducation des enfants. Donc 3 ans comme instructeur à l'ENAC. Ensuite en 94, la tour de contrôle de Blagnac. Retour à l'ENAC en 2000 pour terminer comme professeur en technique utilisation avion. C'est-à-dire qu'on enseignait aux contrôleurs, en fait, ce qui se passait dans un avion de ligne, ce qui pouvait être dégradé dans un avion de ligne et comment on pouvait travailler en synergie avec les pilotes. Donc il fallait leur expliquer ce qui se passait à bord et leur expliquer également comment nous, on pouvait les aider. Et c'était vraiment un enseignement que j'ai adoré.
Alors je crois, mais on n'aura pas le temps de développer ce point-là, mais c'est un peu peut-être ce qui vous a conduit aussi, depuis le début, à beaucoup photographier les avions à la moindre occasion. Ceux que vous croisiez, du regard.
Oui, tout à fait. J'ai passé mon temps, c'est vrai, à beaucoup photographier les avions. J'ai passé, oserais-je le dire, autant de temps sur le tarmac, c'est-à-dire sur les parkings, que dans les tours de contrôle, à tel point... Et je vais raconter juste une petite anecdote par rapport à ça. Lorsque j'étais à Pointe-à-Pitre, il y avait beaucoup de vieux avions sud-américains qui venaient pour faire du transport, du transport cargo, des avions qu'on appelait des camions du ciel, qui avaient derrière eux une histoire absolument faramineuse depuis la guerre de 40. Et beaucoup de pilotes me connaissaient. Des pilotes de ces avions, parce que souvent j'allais photographier, souvent je montais à bord des avions, faire quelques clichés à l'intérieur, jusqu'au jour où un pilote me dit « Écoute André, j'ai vraiment besoin de toi aujourd'hui parce que j'ai un problème. » En fait, le cargo, la personne qui avait acheté le cargo, le contenu de l'avion, avait fait faillite entre-temps et le contenu était resté à bord. Et le pilote était très embêté. Donc il m'a demandé de l'aider. Et en fait, pourquoi j'étais autour de cet avion, c'était mon avion fétiche, c'est-à-dire un Super Constellation, un des derniers qui volait encore. Je me suis débrouillé avec le supermarché du coin, je suis allé avec le pilote, le commandant de bord, on a négocié la marchandise, et le lendemain matin a été vidé. Et le lendemain après-midi, j'ai dit « tu rentres tout à l'heure ?» Et il m'a répondu « Oui, je repars à Saint-Jean, mais je pars avec toi, je t'emmène. » Alors là, ça a été vraiment un des plus beaux jours de ma vie. Parce que Philippe, le problème, c'est qu'une fois dans l'avion, bien sûr, je suis parti dans l'avion, mais
vous n'êtes pas revenu.
Au bout de 3-4 minutes, aussi le soir même, au bout de 3-4 minutes... Le commandant de bord a dit au copilote « Bon, ben écoute, va te reposer, tu laisses la place à André. » Et pour la première et la seule fois de ma vie, j'ai piloté un Super Constellation pendant 1h30. C'était absolument fabuleux. Et
c'était à l'époque où on pouvait, je dirais, transgresser un peu toutes les règles, malheureusement, qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je l'ai fait sur le DC-10.
Oui, c'est une excellente remarque. Ouais. Et c'est vrai que, bon, oserais-je le dire, mais en Guadeloupe, on transgressait beaucoup. J'ai piloté un DC-3 aussi, comme ça. C'était... Alors... Et vraiment, se retrouver à bord de cet avion, en place copilote, au moment du crépuscule, en route vers Saint-Jean, et voir... de droite et de gauche, les flammes s'échappaient des échappements. C'est absolument extraordinaire. Une impression que je n'oublierai jamais.
Alors, nos auditeurs qui ne sont pas là, qui ne nous voient pas, ne voient pas ce petit jeune qui est en face de moi avec ce regard qui pétille, cette passion, c'est dommage. Mais bon, en tout cas, cette passion pour venir, parce qu'il va falloir qu'on y vienne doucement au sujet. Je crois que votre épouse était institutrice. Alors, vous disiez tout à l'heure que votre papa était meunier. J'aimerais faire le lien avec Bazièges, parce qu'il me semble qu'à Bazièges, votre épouse institutrice, Bazièges, le meunier, il y a tout un ensemble qui a fait le déclic de ce sujet sur lequel on va glisser maintenant, le sujet des phares aéronautiques.
Tout à fait. Lorsque nous sommes rentrés en 1991 de Guadeloupe, ma femme a donc été nommée comme institutrice à l'école de Bazièges et le village de Bazièges, en fait, a une école assez importante avec, il doit y avoir une bonne dizaine d'instituteurs et une activité culturelle très vivante. Et donc, j'ai eu l'occasion de discuter beaucoup avec les collègues de ma femme à cette époque et qui me disent « Mais attends, tu es contrôleur aérien, aiguilleur du ciel. Il faudrait que tu t'occupes quand même de notre lanterne de l'aéropostale. » J'ai dit « Mais c'est quoi votre lanterne de l'aéropostale ?» Ils disent « Bah, c'est ce qu'il y a là-haut, là. Et c'est le meunier de Bazièges qui l'allumait. » Et attendez, c'est des blagues votre histoire là, qu'est-ce que ça a à voir avec l'aviation? Et puis, ben, je me suis piqué au jeu, j'ai essayé de creuser un petit peu cette histoire à Bazièges, où effectivement il y avait un phare aéronautique, il a fallu déjà vérifier ce mot, qui était effectivement le mot utilisé par l'aviation civile, phare aéronautique. Et ce phare aéronautique était allumé par le meunier de Bazièges. Pourquoi ? Parce que le meunier gérait un moulin à vent qui se trouverait à peu près à 500 mètres du moulin, du phare. Donc c'est lui qui allumait le phare. Et alors ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est ce lien en fait entre la terre, cette bonne vieille terre, c'est les traditions enracinées, et l'aviation, et une aviation absolument extraordinaire, puisqu'on parle là d'une époque de l'aéropostale, l'époque où on allait vers l'Amérique du Sud.
Alors l'époque, puisqu'en fait là dans notre studio, on est sur Toulouse, pas très loin de la place Esquirol, où on parle de Bazièges. Alors bien évidemment, à l'époque de l'utilisation de ce phare, on parle du départ de l'aérodrome de Montaudran, hein, Montaudran qui a été créé en 1917, hein, par Pierre-Georges Latécoère, puisqu'à l'époque, Blagnac n'existait pas, puisque Blagnac n'a été créé qu'en 1939, je crois. Donc en fait, continuer là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, on avait les avions qui décollaient de Montaudran vers l'Atlantique Sud, et Bazièges était le premier point de sortie, plus ou moins,
Tout à fait. D'ailleurs, j'ai dit aux gens de Bazièges, lorsque j'ai fait ma première conférence là-bas, j'aurais dit « Mais vous êtes la porte de l'Amérique du Sud ». Pourquoi ? Parce que, en fait, on parlait à cette époque de courrier. Et bon, il faut revenir un petit peu très succinctement sur cette histoire. Didier Dorat et Pierre-Georges Latécoère se sont retrouvés, en fait, à la fin de la guerre, avec pléthore d'avions dont l'armée française, l'armée de l'air, ne voulait plus. Pourquoi ? Parce que la guerre était terminée, on ne voyait pas ce qu'on allait faire de tous ces avions. Et il fallait essayer de leur trouver une autre fonction. Et il y a eu cette idée géniale de dire, bon, on pourrait transporter des passagers, évidemment, mais dans des avions qui étaient encore, disons, assez incertain au niveau de la sécurité, c'était difficile de trouver des passagers, sauf les plus courageux. Et on s'est dit, mais il y a peut-être quelque chose d'autre à transporter qui est le courrier. Le courrier, ça pèse pas lourd dans ces biplans et on peut le faire facturer très cher. Donc en fait, cette idée est partie comme ça et à partir de des années 20, début des années 20, donc Pierre-Georges Latécoère a commencé à transporter du courrier. Et à cette époque, quelle était la route la plus intéressante ? C'était l'Amérique du Sud. Il faut se rappeler qu'à cette époque, l'Argentine, par exemple, était un pays extrêmement prospère.
En fait, le courrier, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que le courrier, à la limite, si on le perdait pour un problème technique, voire un avion qui s'écrase, bon, certes, il y avait l'importance du courrier, mais par rapport à un passager, ça n'avait rien de comparable. Donc le courrier, on peut presque dire que ça a été le premier, entre guillemets, de gros guillemets, le premier passager. La première tentative, quelque part, d'aviation commerciale, plus ou moins.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y avait une forme, surtout chez Latécoère et ensuite dans l'aéropostale, une forme de sacralisation du courrier et que même en cas d'accident, on essayait de toute façon de récupérer le courrier. Il ne faut pas oublier, et on en a conservé à Toulouse, qu'on a encore des lettres qui ont été récupérées dans l'avion de Guillaumet lorsqu'il s'est est écrasé du côté de la Laguna Verde, en plein cœur de, des Andes.
Alors, on va revenir sur, sur l'aéropostale. Je crois qu'on est impatient d'en connaître plus. Mais ce phare de l'aéronautique que vous avez finalement découvert et puis fait revivre, enfin revivre non pas au sens de l'activité, mais au sens de la, au sens de la mémoire, il en existait d'autres aux États-Unis, en Allemagne. Je dirais qu'on se concentre sur la vue toulousaine et au niveau de l'Occitanie, mais au niveau de l'Europe et des États-Unis, on en était où à l'époque ?
Alors c'est très intéressant parce que finalement, si on se reporte uniquement à cet échelon français, celui que j'ai découvert en premier, en fait, on a été assez en retard en fait, par rapport à d'autres pays. J'en donnerai pour exemple deux. Le premier, c'est l'Allemagne. L'Allemagne avait déjà des Zeppelins qui, pendant la guerre de 14, faisaient des voyages nocturnes. Et les Zeppelins ont quand même traversé l'Atlantique bien avant Lindbergh. Il ne faut pas oublier ça. Et bien, ces Zeppelins avaient besoin de routes nocturnes. C'est un ballon dirigeable, donc ça ne va pas très vite. Donc, il fallait un balisage au sol pour les aider. Le problème, c'est qu'au début, on ne connaissait que des aérodromes, des endroits, des aéroplaces pour que les ballons se posent, et donc on ne balisait que ces aéroplaces. Mais progressivement, on s'est rendu compte que ça serait bien de baliser les obstacles, donc très vite, les Allemands se sont intéressés à établir des balisages le long des routes, en fait, des Zeppelins, et puis ensuite des avions. Aux États-Unis, le problème était tout à fait différent. Aux États-Unis, en fait, on a très vite pensé, un petit peu comme la maison Latécoère à Toulouse, que le courrier était quelque chose d'extrêmement lucratif. Le problème, c'est que traverser le continent américain, ça prend du temps. Il faut 3 jours avec un avion. Et qui dit 3 jours ou même 2 jours, pour les plus performants, dit une nuit entre les deux. La nuit, on ne sait pas encore faire. Donc, on s'est dit, on va faire un truc. On va partir sur une côte 2 jours, ensuite on va se poser, on mettra le courrier dans un train de nuit, on le récupérera le lendemain matin et on terminera le voyage avec l'avion. Et on s'est dit au bout d'un certain temps, mais on peut peut-être faire mieux. Donc ça explique une certaine logique aux États-Unis, c'est qu'on a commencé par baliser le Middle West, c'est-à-dire la partie centrale du trajet.
Et donc en quelle année ?
Alors ça a commencé dans les années 1925-26.
D'accord, oui.
Même plus tôt que ça, puisque en fait c'est en 1924 que le premier segment nocturne aux USA a été inauguré.
Alors là, dommage, on n'a pas de visuel, on ne peut pas montrer en direct, mais est-ce que vous pourriez nous décrire très rapidement ? Ça représente quoi, un phare aéronautique ? Comment c'est fait ? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus ?
Alors, un phare aéronautique, ça ne va pas accrocher votre regard, a priori. C'est un pylône en béton armé qui a une hauteur de 10 mètres de haut, avec une nacelle tout en haut, et sur cette nacelle, eh bien, il y a le foyer lumineux. C'est quelque chose qu'on ne remarque pas systématiquement dans le paysage et c'est quelque chose qui n'est pas forcément esthétique. C'est quelque chose qu'il a fallu défendre. Par exemple, j'ai fait partie de la commission de classement du phare de Bazièges et ce que j'ai essayé de défendre, c'est qu'on parle de patrimoine industriel, d'histoire, et il y a une histoire humaine, je suppose qu'on va en parler. Et en fait, c'est ce patrimoine industriel et ce qu'il représente qui est important. Bien au-delà, évidemment, de l'aspect esthétique, on n'est pas dans le château de Versailles, bien sûr. Et en France, la première initiative de balisage, en fait, s'est faite avec ces fameux pylônes d'un modèle standard qui a été installé par le ministère de l'Air et particulièrement par son service de la navigation aérienne, celui qu'on appelle le SNAE. Et progressivement, donc en France, à partir de 1927-28, on a commencé à installer tout un maillage de phares, un tapis lumineux, en fait, le long des routes les plus fréquentées.
Donc ce maillage de phares permettait aux avions, aux pilotes de se repérer. Mais là, on parle bien de repères visuels. Et ce repère visuel se faisait de quelle manière avec la lampe, si j'ai bien compris, qui était au sommet de ce pylône métallique.
Alors, Philippe, quand vous parlez de repère visuel, effectivement, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit qui est très important, c'est qu'à cette époque-là, voler de nuit, c'était voler à vue de nuit.
Ouais.
C'était pas voler comme on le fait maintenant aux instruments. On s'affranchit actuellement totalement en fait de la vision du sol grâce à tous les instruments de bord. À cette époque-là, on naviguait à vue de nuit.
Et finalement, parce qu'aujourd'hui on est habitué à nos contacts radio, ne parlons pas de nos portables, de nos smartphones et autres, mais les pilotes, pareil, ils étaient à bord, ils avaient le bruit du moteur et puis les oreilles, mais les oreilles pas pour écouter la fréquence radio, mais leur moteur et le reste c'était la vue pour se repérer.
Absolument. Et donc avant que ces phares existent, ce qui s'est passé, c'est qu'on allait de village en village. On se repérait avec les villes, etc. Et c'était pas évident, surtout les jours de brume. Donc, à partir du moment où il y a eu ce maillage de phares, en fait, ce qui a été important, c'est qu'associé au phare, on a associé une facilité d'identification. C'est-à-dire que les cartes ont commencé à être publiées avec... le code lumineux de chaque phare. En ce qui concerne les phares maritimes, tout le monde connaît les codes lumineux qui existent sur les phares maritimes. C'est du rouge, du vert, du blanc répétitif à X secondes. En ce qui concerne les codes lumineux des phares, il s'agit d'un code lumineux morse, composé de traits et de points. Et sur l'ensemble de la France, chaque phare avait un code qui lui était spécifique, qui était le code d'une lettre.
Donc, à cette époque-là, puisque le code lumineux, c'est dommage, on n'a pas le temps de développer ce point-là, bon, a été créé par Morse, je crois que c'était dans les années 1840, si je me souviens bien, je crois que le premier code Morse a été envoyé en 1844. Donc là, on était au niveau de l'audio, et là, c'était du code Morse transformé au niveau du visuel.
Absolument. Et il y avait un avantage en plus, c'est qu'on pouvait repérer facilement ce phare qui était constitué par des tubes néons, qui est une couleur naturelle rouge-orangée. Et donc, ça permettait de dissocier cette couleur au travers de tout le tapis lumineux qui pouvait exister de nuit, avec en plus le code Morse que le pilote pouvait voir à l'horizon. Et ça lui permettait très rapidement de savoir exactement au-dessus de quel village il se situait.
Et avec chaque repère lumineux, sa lettre. Par
Absolument.
Exemple, le Baziège, c'était quelle lettre?
C'était la lettre G.
Et
en ce qui concerne Baziège.
On reverra. Ce que je propose, c'est de faire écouter à nos auditeurs le code Morse audio avec l'exemple du SOS. Alors le SOS, ça donne quoi André?
Ti 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 ta 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 ti ti ti.
Alors on écoute le code Morse. Alors voilà, on vient d'entendre SOS à plusieurs reprises. Alors on imagine les pilotes survolant ces balises avec la tête quelque part qui dépasse de la carlingue, parce qu'il n'était pas, je dirais, le cockpit n'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui.
Ah, on était en plein courant d'air.
Et on était en plein courant d'air, enfin ils étaient en plein courant d'air. Et donc ils regardaient les lumières et ils essayaient de se dire, ben tiens, j'entends la lettre G, donc si je ne me trompe pas, ta, ta. Et ensuite, voilà, eh bien, ils sont au-dessus de Baziège. Alors on va terminer juste peut-être avant la pause. Après Baziège, on avait quoi comme comme autre phare aéronautique?
Alors, sur la suite, on partait vers l'Amérique du Sud, vers l'Afrique d'abord, évidemment, l'Espagne, l'Afrique et l'Amérique du Sud. D'abord, je veux préciser une chose pour nos amis auditeurs, c'est qu'on partait vers l'Amérique du Sud, non pas par l'Ouest, mais par l'Est. Il y avait une très bonne raison, c'est qu'il fallait passer le long de la côte méditerranéenne, où il y avait beaucoup moins d'intempéries, rejoindre Gibraltar, prendre la côte ouest de la côte ouest de l'Afrique, et bon, plus tard, traverser l'Atlantique. Initialement, on mettait le courrier sur des bateaux, on a un peu oublié l'histoire des bateaux de l'aéropostale, et ensuite, il y avait une autre partie de l'aéropostale, en fait, qui constituait un ensemble de lignes aériennes sur l'Amérique du Sud.
Alors, ce que je vous propose, André, puisqu'on arrive à déjà à notre pause musicale, on poursuivra, on est à Bazièges, et puis on va arriver petit à petit à ce phare aéronautique. Alors, vous savez que la tradition, je dirais, veut que notre invité choisisse la pause musicale. Alors, vous nous proposez quelle pause musicale, quelle musique peut-être?
Alors, je propose d'écouter un morceau que j'aime beaucoup, qui est l'intermezzo, en fait, de l'opéra Carmen. J'aime beaucoup la flûte traversière dans les instruments, j'aime beaucoup l'opéra, j'aime l'art lyrique, et ça c'est une chose que je dois à l'origine à mon père qui nous emmenait souvent au théâtre lorsque nous étions enfants, et j'ai gardé de cette époque-là en fait une âme très, très théâtrale, très lyrique, il y a toujours un morceau de musique qui traîne dans ma tête, et le matin quand je me lève, il y a déjà un morceau de musique. Et je trouve que cet intermezzo de Carmen est un superbe mariage, je dirais, de divers instruments. Il y a la flûte, la harpe, et ensuite tout l'orchestre, qui va reprendre et envelopper ce magnifique mariage, en fait, entre la flûte traversière et la harpe.
Nous écoutons. Alors nous voici de retour dans l'Oiseau Blanc avec notre invité André Brice-Montier qui nous fait découvrir cette belle histoire des phares aéronautiques. Alors, je ne sais pas, André, si vous l'avez fait exprès. Parce que ce choix musical qu'on vient d'écouter, alors, je me suis dit, je vais essayer de regarder un peu les dates. Et en fait, Carmen a été présentée exactement le 3 mars 1875. Très mal, d'ailleurs, très mal accueillie, hein, puisque l'histoire est un peu sulfureuse, hein, pour l'époque. Je dirais, avec une femme très, très libérée qui passait d'amant en amant. Et 1875, c'est l'année aussi où Clément Ader a créé le mot, le mot avion, avec son premier éole qui a décollé en 1841. Alors il y a un élément sur lequel j'insiste à chaque fois et je suis assez sensibilisé sur ce point-là, c'est qu'en fait, on est seulement à 30 ans de ce dont on est en train de parler, des phares aéronautiques. Alors si on se projette plus de 100 ans, on arrive quasiment à notre période aéronautique. Donc c'est pour ça que l'aéronautique a évolué de manière très vite. Alors André, cela étant dit, on était à Bazièges, avec notre petit avion décollant de Montaudran, on regarde avec l'extérieur du cockpit quel endroit on est, le côté lumineux, on vient de passer Bazièges, on a repéré la lettre et je vous proposerai d'arriver à Montferrand. Alors Montferrand, si nos auditeurs s'en souviennent, je l'ai survolé en direct dans une émission que j'ai fait avec un pilote au départ de Castelnaudary sur ce bel avion qui a été le premier sur lequel j'ai volé, le Piper Cub J3. Et on a survolé Montaudran. Et donc en direct, je faisais part de ce survol, on a survolé Montferrand et je faisais part de ce survol. Alors Montferrand, vous l'avez aussi découvert quelque part et je crois peut-être que vous l'avez aussi fait revivre d'une certaine manière, enfin revivre au sens patrimoine du terme.
Oui, tout à fait. En fait, Montferrand est le deuxième phare sur la ligne. Donc je disais tout à l'heure que on allait d'abord retrouver la Méditerranée, on allait chercher la côte méditerranéenne avant de descendre plein sud. Et Montferrand, sur cette colline qui domine le seuil de Naurouze, donc, eh bien, ça servait de lieu de passage, évidemment, pour les avions de l'aéropostale. Et se trouve là-bas le deuxième phare, d'ailleurs, qui est remarquablement conservé. Les gens de Montferrand, qui ont d'ailleurs une activité culturelle très, très intéressante et précieuse, ont beaucoup travaillé sur ce phare. J'ai eu l'occasion d'y faire aussi des conférences. Et ils ont même mis des explications au pied du phare pour les gens qui circulent dans la région, qui font des randonnées. Le phare de Montferrand, en fait, donc je me suis dit, après Bazièges, on va continuer la route. J'ai retrouvé les cartes qui se trouvaient, en fait, aux archives du musée de l'air au Bourget. Et je suis allé, avec ces cartes de 1938, en l'occurrence, de phare en phare. Donc j'ai retrouvé ce phare de Montferrand, et puis j'ai rencontré les gens à Montferrand. Et je leur ai dit, mais qui est-ce qui s'occupait de ce phare à Montferrand? J'ai su que c'était à Bazièges, c'était le meunier, mais chez vous? Ah, ben, c'est le garde-champêtre chez nous qui s'occupait du phare. Le garde-champêtre, bon, et puis il y avait des fois, on avait du mal à le trouver, parce qu'il fallait absolument qu'il ait son télégramme pour aller allumer le phare après. Et puis, on me dit, mais si vous voulez, la fille du garde-champêtre, elle est toujours dans le coin. Vous allez descendre dans cette maison qui est là-bas, vous allez voir, peut-être que vous allez la rencontrer. J'ai donc rencontré cette dame qui était toute contente que je parle de son père et c'était la première fois, m'a-t-elle dit, avec grand plaisir, qu'on parlait de cette activité qu'avait eue son père au seuil de Naurouze pour faire passer les pilotes de l'aéropostale. Et elle a ajouté un truc, elle a dit, mais en plus, mon père, quand on l'appelait, on le sollicitait pour avoir la météo. Parce que chacun sait évidemment dans la région que le seuil de Naurouze, ce n'est pas un endroit idéal au niveau météorologique.
Que ça soit en voiture ou en avion.
Absolument, je suis d'accord. Et le père de cette dame a assuré non seulement le gardiennage du phare et l'activation du phare, mais également les rapports météorologiques. Elle-même a continué, sans s'occuper du phare qui était déjà éteint, à fournir des rapports météorologiques à la météo nationale qui se trouve à Toulouse. Et elle a, à ce titre, la médaille de l'aéronautique, évidemment, qu'elle m'a montrée avec beaucoup de fierté.
Alors, ce que vous dites là, finalement, on voit petit à petit que ces phares aéronautiques nous ont commencé à, je dirais, à déchiffrer le terrain de la problématique d'une gestion du trafic aérien qui était à cette époque-là limitée à ces pilotes qui osaient transporter du courrier. Donc vous venez de dire, on vient de parler par exemple de la météo. Et les échanges, parce qu'en fait, les avions survolaient des phares les uns après les autres. Donc il fallait aussi qu'il y ait un échange, une communication entre ces phares. Et comment ça se faisait alors là ?
Alors, à cette époque, heureusement, on n'était pas dans un trafic aérien hyper dense. Sinon, ça n'aurait pas marché, évidemment. Il fallait coordonner l'allumage des phares. Et en plus, en fait, des cartes éditées par le ministère de l'Air, il y avait également un livret de consignes, phare par phare, qui permettait de savoir pour les pilotes comment on pouvait faire commander l'allumage d'un phare.
C'était le début des procédures, finalement, qu'on vit.
Voilà, quelque part, oui, quelque part. Alors, dans la région, ici, en Occitanie, c'était le commandant d'aérodrome de l'aéroport de Francazal, comme nous évoquions tout à l'heure, nous parlions de Blagnac. Blagnac n'existait pas. Le grand aérodrome de Toulouse, à l'époque, c'était Francazal, en plus de Montaudran. Et le commandant d'aérodrome de Francazal recevait les appels des pilotes. Par exemple, un pilote qui voulait partir de Montaudran et partir vers l'Amérique du Sud, dirons-nous, enfin, au moins vers l'Espagne et l'Afrique, devait prendre contact avec le commandant d'aérodrome qui, lui, retransmettait par téléphone ou télégraphe à la personne préposée au phare un message pour allumer le phare dans un créneau horaire précis.
Oui, parce qu'on n'allait pas l'allumer 2 heures avant. Hein.
Oui, bien sûr. Après, on les allumait toutes les nuits. Ouais. Mais à cette époque-là, on les allumait juste pour le passage de l'avion. Et donc, la personne préposée devait assurer cet allumage. En plus de cela, le commandant d'aérodrome de la région, donc ici Toulouse-Francazal, avait la responsabilité, 1 à 2 fois par an, d'inspecter les phares. Et il existait également au niveau national une voiture d'inspection qui venait apporter du matériel de réserve, des néons, des contacteurs pour que les gardiens, en fait, puissent éventuellement assurer une petite maintenance.
Alors, je prends cet exemple de ce que vous êtes en train de nous faire découvrir. Vous-même, vous avez découvert ces informations de quelle manière ? Vous êtes allé creuser dans les archives de Francazal ou autre ?
Alors, les archives, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose d'assez banal. Je dirais au niveau aéronautique, il est facile de retrouver des traces en ce qui concerne les grands pilotes ou les avions. Mais en ce qui concerne la vie au sol et de tous ceux qui ont assisté ces avions, il n'y a pas grand-chose. Et en fait, à part les documents du ministère de l'Air, c'est grâce aux archives de la DGAC, il en existait encore.
La Direction Générale de l'Aviation Civile.
La Direction Générale de l'Aviation Civile. Et grâce, en fait, au concours d'un certain nombre de personnes, je me permettrai de citer le nom de Pierre Leroy, qui a été quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup aidé pour obtenir des informations que nous avons ensuite collectées avec d'autres contrôleurs aériens intéressés par le problème, dans une association intéressée à l'histoire de l'aviation qui s'appelle la Mémoire de Bordeaux Contrôle. Et nous avons donc collecté un certain nombre de documents, des documents qui sont quelquefois assez amusants, par exemple des lettres de réprimande aussi pour dire que Monsieur Machin qui s'occupe du phare de tel endroit, il ne sait pas ce que c'est qu'une heure, une heure légale. Lui, pour lui, lever et coucher de soleil, ça correspond en fait au moment où il est capable d'aller travailler dans son champ ou de ne plus aller travailler dans son champ.
Donc, comme on discutait, mais dans la précédente émission avec un commandant de bord long courrier, en fait, on parlait avec lui de maintien de compétences. Mais voilà, on était déjà presque au niveau du maintien de la surveillance de la compétence et du maintien nécessaire de cette compétence.
Et oui. En plus, une petite chose que je voulais ajouter, c'est que les premiers téléphones qui sont arrivés dans les villages dotés d'un phare, eh bien, ce sont les téléphones des gardiens. Ce sont eux qui ont été les premiers. Ça a été le cas à Malose. Je ne sais pas à Montferrand, mais je sais qu'à Malose, le premier téléphone, c'était pour le gardien de phare.
Alors, j'espère que ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire ceux qui nous écoutent, s'aperçoivent de l'importance de ce que vous êtes en train de dire. On est dans les années 20-30, hein, dans cette vingtaine d'années. Et finalement, on découvre quelque part la gestion du trafic aérien, comme vous le disiez justement tout à l'heure, trafic très limité. Il n'empêche que se poser la question du maintien de la route, hein, avec ses survols de phare, des préavis de vol, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, de la gestion des vols coordonnés, avec des échanges entre les responsables, les gardiens locaux, les responsables comme celui régionaux, comme celui de Franck Casal. Et il y a également la gestion, ce que je qualifierais la gestion du plan de vol. Alors si vous pouviez peut-être encore deux minutes sur ce sujet global qui permet de mieux voir l'importance de cette phase. On n'est pas que dans le patrimoine pur et dur, c'est-à-dire, et l'importance, c'est justement en découvrant ça, c'est de faire le lien avec ce que nous sommes aujourd'hui.
Oui, alors effectivement, c'était un petit peu compliqué de la part des pilotes, parce qu'il fallait s'y prendre très tôt, indiquer la route qu'ils allaient, par exemple, disons, un Montaudran, Espagne, en passant par le col du Pertus. Eh bien, il fallait prévoir de poser un préavis avant 15 heures pour pouvoir avoir un allumage du phare le soir. Et donc tout le long de la route, c'était quand même un sacré travail. Et d'ailleurs, il était bien mentionné dans les bulletins de la navigation aérienne, n'oubliez pas de faire allumer les phares sur votre route en respectant les délais impartis pour faire passer l'information de votre demande, ce qui n'était pas évident. Et je devrais ajouter par rapport à ça que je considère ces personnes qu'on a complètement oubliées, comme les ancêtres des aiguilleurs du ciel, dans la mesure où, en fait, ils ont assuré la régularité du trafic.
On est d'accord. J'avais la même... J'avais une pensée pour... Bon, bien que nous soyons tous deux très jeunes, on a connu une période du contrôle aérien qui n'est pas si éloignée. Et en fait, on était aussi, à cette époque-là, bon, on n'a pas le temps de développer, mais on était aussi ce rapport entre l'humain, l'avion et sa tâche. Et l'humain est participant le mieux qu'il le pouvait, d'une certaine manière.
Oui, Philippe, c'est une chose, peut-être maintenant, qui me chiffonne un peu dans ce que je vois d'évolution du contrôle aérien. J'ai connu un contrôle aérien, notamment au Bourget, surtout au Bourget, où il y avait une forme de fusion entre les contrôleurs, les pilotes, et le reste de la communauté aéronautique. L'aérogare, c'était toute une famille, tout le monde se connaissait. Alors que maintenant, j'ai l'impression que quelque part, il y a une forme de dissociation, en fait, de chaque corporation, et je trouve ça un peu triste.
Oui, cela mériterait un développement dans une autre émission, pas dans celle-ci, mais je pense que ce problème, ce constat, disons, est un petit peu généralisé, d'où l'importance d'avoir des témoignages comme celui que nous avons aujourd'hui de votre part. Alors, cela étant dit, par rapport au contrôle de l'évolution du lien, on était finalement, après la guerre de 14-18 et avant, malheureusement, la Seconde Guerre mondiale, et comment se fait-il que ces phares aéronautiques ont disparu. Il y a eu une période, en fait, où on a des cartes publiées sur toute la France de ces phares. Et qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de ces phares aéronautiques, le pylône, la lumière, le fonctionnement, à l'abandon de ces phares quelques années après?
Alors, évidemment, la première chose, c'était une raison, hélas, politique, qui était l'avènement de la Deuxième Guerre mondiale. Il était hors de question d'aider l'ennemi, en fait, à circuler sur le territoire français grâce au balisage lumineux. Donc les phares ont été éteints en 1939 pour des raisons stratégiques. Et puis, le problème, bon, c'est souvent ce qui se passe dans les guerres, c'est qu'on fait énormément de progrès. Et la majorité des progrès en matière d'aéronautique ont été faits pendant la guerre de 14, d'abord. On est quand même passé du vieux biplan cajapoule, comme disait ma grand-mère, aux premiers avions de transport. Et ensuite, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a été énormément développé, c'est la radionavigation. Donc, finalement, après-guerre, en 1945, les phares, on a commencé à les rallumer traditionnellement. Mais la majorité des avions commençaient à être équipés de moyens de radionavigation, sauf les petits avions qui, eux, étaient encore amenés à faire du vol à vue, et même la nuit, éventuellement. Donc, après la guerre, le ministère de l'Air et après l'aviation civile, puisqu'on a changé de nom après, a commencé à envisager d'arrêter ces phares. Donc, on a retrouvé, grâce aux gens de la Direction générale de l'aviation civile, le service historique, on a retrouvé un certain nombre d'arrêtés qui parlaient du décommissionnement de ces phares parce qu'on n'en trouvait plus l'utilité. Il y a eu donc toute une polémique philosophique, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on ne les garde pas? Bon, nous sommes bien français, on reste assez attachés aux traditions, et on a eu du mal à arrêter les phares. N'empêche que, par exemple, si l'on parle du phare de Bazièges, eh bien le phare de Bazièges a été arrêté en 1952, mais encore dans les années 50, il y avait des transactions avec le propriétaire du terrain pour lui verser une commission normale et légale pour occupation de son terrain par un phare.
Et je suppose qu'il est arrivé l'époque où la commission ne la payait plus, que le phare il était en place quelque part, que si le terrain était dans une zone de friche, eh bien le phare pouvait rester, que par contre si le phare était dans une zone, je dirais par exemple constructible, eh bien ma foi, le phare a disparu de manière naturelle.
Voilà, Philippe, c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Et quand on regarde sur les circulaires d'époque, la première chose qui s'est passée à l'extinction des phares, les phares ont été remis au domaine, puisque c'est des propriétés nationales, qu'ils sont toujours d'ailleurs en principe. Et le domaine a essayé de revendre les pylônes en béton, mais n'y est jamais parvenu. Et une circulaire a suivi, en fait, en disant « Bon, ben écoutez, dans la mesure où les phares, tel ou tel phare ne gêne pas, on va le laisser en place et puis, vaille que vaille, les gens feront ce qu'ils voudront. »
Et dans ces phares qui ont disparu, on avait donc les phares de jalonnement et les phares qui étaient plus à proximité des aérodromes. Est-ce qu'on peut les appeler les phares d'aérodrome ?
Phares d'aérodrome ou phares de rappel. On les appelait souvent phares de rappel parce que c'est ceux qui appelaient le pilote, en fait, grâce à leur flash, vers le terrain d'atterrissage. C'était en général d'ailleurs des phares à éclat, contrairement aux phares de jalonnement, qui sont les phares qui, eux, sont entre les terrains et qui assurent le balisage de la route entre ces deux terrains.
Et pour terminer sur le sujet de l'époque, l'aéropostale avait construit des phares je dirais, à son intention, dans le cadre de sa mission.
Oui, alors c'est quelque chose qui est très caractéristique en Occitanie, et je dirais seulement en Occitanie. La ligne de l'Amérique du Sud, en fait, avait besoin d'extension pour récupérer du courrier vers Bordeaux. Et Didier Dora, à cette époque-là, s'est dit « Mais mes pilotes ont besoin d'avoir quelques phares supplémentaires. Ceux du ministère de l'Air ne suffisent pas. » Donc, il a fait monter à un prix beaucoup plus modique des constructions métalliques avec un phare rotatif qui, au début, était à éclat blanc, ensuite à éclat blanc et rouge, sans code Morse. Et il y a 5 phares qui ont été installés entre Bordeaux et Toulouse. Il y en a 2 qui sont encore quasiment intacts. C'est le phare de Malose et le phare de Canals. C'est pas très, très loin de chez nous. D'ailleurs, les gens de Canals souhaitent faire une mise en valeur de leur phare.
Et quel endroit, donc, exactement si
Alors, Canals, ça se trouve pas très loin de Castelnau d'Estrefonds. D'accord. Et ça se trouve sur une petite plateforme, il faut le trouver. Mais la municipalité est intéressée pour la mise en valeur de leur phare. L'autre phare qui existe également, c'est un phare qui a été installé, donc toujours par l'aéropostale, sur le col du Perthus, parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents au niveau du col du Perthus. La météo y était très mauvaise et ça permettait aux pilotes de couper un peu au cours vers Barcelone au lieu de passer par tous les caps de Méditerranée. Et donc, ce phare existe toujours.
On peut le voir en passant en voiture, là
On peut tout à fait le voir, mais encore faut-il passer sur le village du Perthus. Il domine le village et il est très bien entretenu pour une simple raison, c'est qu'il sert de support pour la sirène des pompiers. Et par conséquent, les pompiers le repeignent régulièrement et finalement, le fait qu'il y ait la sirène, c'est peut-être un bon plan.
Et les autres phares sur cette carte de France dont on parlait tout à l'heure, ils correspondaient finalement à des lignes, enfin je dirais à des cheminements particuliers?
Oui, alors il y a un certain nombre de cheminements majeurs qu'on peut repérer. Il y a la ligne de phare qui monte vers Londres, sur Paris-Londres, il y a Paris-Bruxelles, il y a la ligne Paris-Strasbourg. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait la Franco-Roumaine, qui était une compagnie aérienne importante, qui utilisait beaucoup de trajets vers l'Europe centrale. Et puis, il y avait, le Paris-Lyon-Marseille. D'ailleurs, on a monté, même sur ce secteur Paris-Lyon-Marseille, 2 phares ultra-puissants qui éclairaient à 350 km, qui est le phare du Mont-Afrique, ainsi que le phare de Paris qui se trouvait au Mont-Valérien. Ces phares ont été désinstallés assez rapidement, mais ils ont été les premiers grands phares en fait installés en dehors des phares de jalonnement qui ont suivi. Et par contre, la ligne Paris-Bordeaux n'a pas été énormément équipée, peut-être pour une autre raison, c'est que le terrain était plat, donc c'était moins difficile pour les pilotes de naviguer à vue de nuit. Et puis une autre ligne qui n'a jamais été balisée, c'est souvent une question que je pose à mes auditeurs dans des conférences, rien sur Paris-Brest. Et il y a une raison quand même précise, alors je dis aux gens, mais pourquoi rien sur Paris-Brest? Eh bien pour une simple raison, c'est qu'on ne traversait pas l'Atlantique encore à ce niveau-là.
Oui, puis je pense que les Bretons qui nous écoutent aujourd'hui, ils se plaignent aussi un peu toujours de ces problèmes de manque de lignes un peu directes. Hein. Il suffit de vouloir aller de Toulouse à Rennes ou à Nantes. Je ne parle pas en avion, mais par exemple en train. Hein.
Oui, c'est possible.
Ce qui est étonnant, en fait, c'est que dans ces lignes, on retrouve finalement les flux de trafic d'aujourd'hui. D'où encore une fois l'importance, et on fait le lien avec les flux de trafic, parce qu'on parle des années, on est autour de 1927-1930 à cette époque-là.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, on arrive malheureusement, André, petit à petit à la fin de l'émission. On va se permettre de déborder un petit peu parce que bon, ça le mérite et puis votre passion le mérite. On parlait tout à l'heure d'évolution des moyens de radionavigation. On a un exemple de moyen de radionavigation qui ressemble finalement à ce phare de l'aéronautique et je pense à ce qu'on nomme le NDB, le Non-Directional Beacon. Si vous pouviez nous dire ce que c'est que ce moyen de radionavigation qui, pour moi, est comparable à ce phare aéronautique.
Oui, alors c'est quelque chose que j'explique en général en fin de présentation des phares aéronautiques. c'est qu'on est passé d'une façon fort naturelle, en fait, du phare au radiophare. C'est-à-dire qu'on a gardé le code Morse, sauf que le code Morse, c'était un code audio. C'est-à-dire qu'on écoutait, en fait, le codage très point au lieu de le regarder. Et le radiophare, en fait, eh bien, il a été installé le long des routes, c'est-à-dire que je prends par exemple, je ne sais pas, le radiophare de Châtillon-sur-Marne, que je connais bien parce que...
Il y a du champagne là-bas, je connais, oui.
Il y a du champagne, c'est le berceau de la famille. Et en plus, pour moi qui étais fanatique d'avion, c'était un endroit, un grand lieu de croisement de tous les avions. Donc j'ai passé, quand j'allais chez ma grand-mère en vacances, je passais mon temps le nez en l'air à regarder passer les avions. Et à l'époque, il y avait tous les DC-4 de l'US Air Force, il y avait les constellations de la TWA qui allaient se poser à Francfort. Enfin, c'était un véritable régal, Philippe.
À Châtillon-sur-Marne, on est sur une petite colline, on peut regarder un petit peu tout autour. Hein,
oui, tout à fait, tout à fait. Et chaque balise, en fait, portait le nom d'un village. Il y avait le radiophare de Saint-Sauge, il y avait le radiophare de Rolampon, il y avait... et donc, en fait, à chaque fois, on avait l'impression qu'on passait par-dessus le village, un peu comme avant.
Alors, toute cette discussion, moi, me conduit à une pensée. On essayera de faire une émission avec Qui va bien pour justement refaire un point qu'on ne peut pas faire là tous les deux ensemble sur ces moyens de radionavigation dont on dispose et plus encore, hein, les moyens pour se poser sur un aéroport, décoller, etc. Pour arriver à notre conclusion, André, tout ce qu'on vient de faire ensemble, tout ce qu'on vient de découvrir ensemble, on est obligé de faire le lien avec cette notion de patrimoine à conserver. Et quel est votre... aujourd'hui, vous allez aller encore un peu plus loin dans cette mission qui est la vôtre ?
Oui, alors, la première chose déjà, avant de parler de préservation de patrimoine, c'est de porter à la connaissance des gens que les phares existent. Ça, c'est la première chose. Ça a été ma première démarche.
Nous venons de le faire un peu.
On vient de le faire, voilà. La deuxième démarche, c'est d'obtenir la valorisation et le classement de ces phares. La première démarche a été faite avec le phare de Bazièges. Et donc, j'ai participé à la commission de classement. Le phare de Bazièges a donc été classé à l'inventaire des monuments historiques le 6 août 2010. Et c'est intéressant parce que c'était, j'espérais, le point de départ de quelque chose. Cependant, le problème, c'est qu'une fois qu'un phare est classé, il ne peut pas être restauré d'une façon relativement libre. Montferrand a restauré son phare avec des artisans du coin. Le problème de Bazièges, c'est que le fait de devoir utiliser des artisans officiellement habilités par les monuments historiques, ça coûte très cher. Et les maires, en fait, maintenant rechignent à faire classer leur phare, simplement parce qu'ils savent qu'à partir de là, le restaurer, ça coûtera très cher.
C'est quand même terrible, finalement, quand on pense à ça.
Oui, c'est un peu triste, parce que finalement, là, on parle du phare de Canals, qui est un bâti métallique aussi, qui mériterait une restauration. Le phare de Malouz a été restauré par la ville de Malouz, avec les artisans du coin. Mais finalement, on est sur un problème de gros sous, et c'est un peu compliqué.
Oui, c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à restaurer de manière pratique. Amical.
Le problème, c'est que tant qu'on parle de château en restauration, ça va. Mais quand on parle d'un phare qui est un patrimoine de mémoire, je dirais, et patrimoine industriel, on sait quand même, on a porté l'existence des phares, la connaissance de gens comme Stéphane Bern aussi, pour sensibiliser à cette restauration. Mais pour l'instant, c'est quelque chose de difficile. On est quand même encore à l'état d'ébauche.
Alors, vous aviez un mot dans un papier que j'ai lu de vous, André. C'est Cette histoire est une histoire ordinaire et discrète. Finalement, elle n'est pas si ordinaire et si discrète après cette plus d'une heure qu'on vient de passer avec vous.
Oui, mais c'est quelque chose que j'ai à cœur. C'est, je dirais que ça correspond un peu à ma mentalité. Je ne suis pas, je n'ai pas la mentalité d'un grand pilote de ligne. Je n'aurais pas fait une belle carrière dans le pilotage en ligne. Je laisse ça aux gens plus capables que moi de le faire. Moi, je suis dans l'entre-deux, entre la terre et l'aviation. Et c'est quelque chose qui me va très bien. Et je trouve que cette histoire des phares est quelque chose d'assez symbolique, justement, comme ce trait d'union entre la vie des gens des villages et, en fait, la vie de nos célèbres pilotes de l'époque. Et que c'est quelque chose qu'il faut mettre en valeur et essayer de faire perdurer dans la mémoire.
Avec vous, il me semble qu'aujourd'hui, on vient de toucher de manière extrêmement précise la question de l'humain, de l'amour, de son métier. Et à cette époque, juste avant la guerre, après la guerre, on voit que l'aviation avait justement ce côté humain, ce côté rapprochement des peuples. Alors la période malheureuse que nous vivons actuellement, pour ne pas la nommer la guerre en Ukraine, j'ai envie de revenir sur cette, pour participer avec vous à une conclusion avec cette convention de Chicago qui a été signée le 7 décembre 1944 et qui était la convention qui avait pour but de gérer l'aviation civile internationale. Alors après vous avoir écouté, il me semble que les deux paragraphes du préambule de cette convention de Chicago qui a conduit le monde à gérer l'aviation civile internationale, ces deux paragraphes sont intéressants à lire et je vais me permettre d'utiliser encore quelques minutes là-dessus. Je vous les lis. Le préambule de cette convention donc du 7 décembre 1944 est le suivant. Les deux premiers paragraphes, considérant que le développement futur de l'aviation civile internationale peut grandement aider à créer et à préserver entre les nations et les peuples du monde l'amitié et la compréhension, alors que tout abus qui en serait fait peut devenir une menace pour la sécurité générale. Deuxième attendu, considérant qu'il est désirable d'éviter toute mésentente entre les nations et les peuples et de promouvoir entre eux la coopération dont dépend la paix du monde, etc., etc., on a conclu la présente convention à ses fins. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de perdre ces valeurs. Vous étiez là, André, pour nous refaire ce lien avec ce passé dont on ne doit pas se déconnecter pour mieux comprendre le présent et mieux comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors nous arrivons, oui, à la fin de l'émission et mon invité avait encore tant de choses à nous dire et j'avais tant de questions encore à lui poser. Alors derrière cette belle histoire des phares aéronautiques que vous venez de nous faire partager, nous avons aussi beaucoup appris de vous, André. Merci André Brismontier de nous avoir démontré, s'il le fallait encore, qu'une vraie passion ne peut s'éteindre, car elle reste un guide de recherche de souvenirs, mais aussi, j'en suis convaincu, de regards portés vers l'avenir. André, permettez-moi de vous laisser conclure.
Je dirais par rapport à ce que vous venez de dire, Philippe, que lorsqu'on a la chance d'avoir une passion dans la vie, cette passion constitue une sorte de lien continu entre la naissance et la mort. Et elle vous donne quelque part quelque chose, une sorte de sérénité intérieure, une sorte de bien-être. Et que c'est pour moi une sorte de don du ciel, en fait, d'avoir ce genre d'envie. Et merci Philippe de m'avoir reçu et de m'avoir permis de parler de cette merveilleuse aventure des phares.
Merci à vous. C'était L'Oiseau Blanc, une émission de Philippe Trousselard avec à notre veille technique Tiphaine Lemaine, qui est finalement notre phare technique à nous ici dans ce studio. Vous pourrez retrouver cet enregistrement de L'Oiseau Blanc ainsi que tous les précédents sur le site de la station, mais aussi grâce à nos pages Facebook de l'émission et de la radio. Et n'oubliez pas qu'Esprit Occitanie dispose de ses applications Apple et Android. Chargez vite ces applications et n'oubliez pas que tous nos podcasts sont disponibles sur celle-ci. Dans la prochaine émission, je recevrai M. Vincent Desjours qui nous fera découvrir le métier de contrôleur aérien d'aiguilleur du ciel que lui-même exerce à l'aéroport d'Orly. Donc, à très bientôt avec vous dans l'Oiseau Blanc.